Moi, je suis à cheval sur deux disciplines, ce que n'indiquait pas la présentation qu'on a faite, à savoir la philosophie, qui est ma formation initiale, et la science politique, qui est ma formation secondaire. Et je suis, en fait, j'enseigne à la fois dans un département de philosophie, où j'enseigne la philosophie politique, et à Sciences Po Grenoble, à l'IEP, l'Institut d'études politiques, où je m'occupe d'histoire des idées politiques et de théorie politique. Alors, en fait, les deux disciplines sont intéressantes parce qu'elles ne joignent pas du tout. En fait, c'est même assez difficile de les faire joindre. La science politique est descriptive. Il s'agit d'adapter de la sociologie, du droit constitutionnel, pour que ces disciplines rendent lisible le jeu politique, la vie politique. Donc il y a une dimension descriptive. Et en philosophie, il y a une dimension certes descriptive, mais une dimension surtout prescriptive. Hein, le but ultime de la philosophie politique, ce n'est rien moins que de déterminer le meilleur régime possible. Voilà, donc moi je suis vraiment à cheval sur ces deux disciplines désormais, dans un jeu permanent entre le descriptif et le prescriptif. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, la méthode qui est la mienne ordinairement, je vais essayer de l'adapter pour traiter ce sujet de la démocratie représentative. Alors je vais parler pendant 40-45 minutes, vous allez voir dans un plan, à ce propos d'ailleurs je vous recommande de noter le plan parce que c'est toujours plus difficile à entendre ce type d'intervention si on note pas l'organisation du propos. D'autre part, je vous laisserai la parole pendant une demi-heure parce qu'il y a certaines questions, vous allez voir, qu'on va devoir réfléchir ensemble, qui sont des questions vraiment à la fois précises et tout à fait importantes pour notre vie courante. Voilà. Alors, pour introduire mon propos, je dirais que ce terme, cette notion de démocratie représentative, bien entendu, se compose de deux termes qu'il faut examiner successivement. C'est une notion assez technique, mais qui, en fin de compte, interroge des enjeux véritablement importants pour notre vie citoyenne, notre vie politique, et donc, on va voir, pour notre liberté, concrètement. D'abord, le mot « démocratie », évidemment, ensuite, le mot « représentative », ce mot est chargé de signification. Démêlons-en quelques-unes. La démocratie est d'abord un régime entendu comme une forme d'organisation des pouvoirs et une forme de vie, une manière de vivre. On parle du régime politique de la démocratie, mais il ne faut pas oublier que ce régime politique est toujours lié à une société démocratique, une socialité même, une manière de vivre. Je vais y revenir. Ce terme, d'autre part, c'est le deuxième point pour qualifier la démocratie, est aussi bien descriptif qu'évaluatif. On reconnaît une démocratie à certains traits qu'on va évoquer, mais on peut dire aussi qu'elle correspond à un idéal, la démocratie, la notion de démocratie. Et en tant que telle, elle est évaluative. L'adjectif politique en particulier, le qualificatif démocratique, évidemment, fait immédiatement songer à quelque chose d'idéal. On dit d'une société, même d'une situation, qu'elle est plus ou moins démocratique. Alors, précisément, quels sont les critères qui permettent de dire que la notion de démocratie valorise les situations dont on parle, si vous voulez, qu'on attend quelque chose de cette notion de démocratie? Si on faisait un rapide sondage, on trouverait vite. Hein, je vous interrogerai tout à l'heure sur d'autres points, mais là, assez rapidement, pour gagner du temps, on peut s'apercevoir qu'on n'entend pas assez communément, si on attrape quelqu'un là, on va dire, mais qu'entends-tu par démocratique? Il va nous dire, j'entends par démocratique assez spontanément le fait que les individus s'expriment librement, liberté dans l'expression, par suite, mais c'est un deuxième critère, respect dans la pluralité de l'expression. Le propre d'une démocratie, c'est précisément de rassembler des gens qui ne disent pas la même chose. Ils peuvent le dire, mais ils ne disent pas la même chose. Donc libre expression, respect de la pluralité de l'expression. Une notion plus politique en troisième sens, qui est l'adoption des décisions par choix collectif. Il y a démocratie quand les décisions qu'on choisit sont prises collectivement. Techniquement, on appelle ça la souveraineté du peuple. Hein, érigé en principe, on va voir, de droit constitutionnel, ça s'appelle la souveraineté du peuple. Mais à la base, il s'agit donc de l'adoption de décisions par choix collectif. Quatrièmement, là encore, un principe qui peut-être n'apparaît pas tout de suite, mais qui, dès qu'on réfléchit un peu, survient, on demande à un dirigeant en démocratie, à un responsable, à un élu, on va parler des élus, qu'il puisse justifier ce qu'il a fait. En démocratie, disons, la décision lorsqu'elle est appropriée par une personne, par un responsable, obéit à un principe de justification. Une situation n'est pas démocratique quand quelqu'un prend une décision sans pouvoir la justifier. Justifier, ça veut dire à la fois expliquer, j'ai pris cette décision parce que j'avais cette idée-là, et ça veut dire aussi renvoyer la décision qu'on a prise à des valeurs. La décision, elle est, vous voyez, la justification, elle est à la fois logique et, comme on dit en philosophie, axiologique. Axia, ça veut dire la valeur. Donc j'ai jugé que c'était bon en fonction de ces valeurs. Alors, il me semble même, on va retrouver ces problèmes tout à l'heure, que un dirigeant dans une société démocratique n'a de pouvoir sur les autres, n'a de légitimité que s'il est capable de justifier ce qu'il fait. Vous voyez, la légitimité, c'est le contraire de l'arbitraire en démocratie, ainsi entendu. Enfin, dernier point, cinquième critère, qui fait que là, bon, c'est vraiment un idéal, la démocratie. C'est plus difficile à dire, mais s'attache à l'idée de démocratie une sorte d'exigence de justice. Une sorte d'exigence d'équité. Cette équité, le fait que les décisions soient équitables, qu'elles satisfassent le plus possible tout le monde, chaque parti différent. Donc cette exigence est difficile à préciser, évidemment. C'est l'objet, ce que je viens de vous dire, ça c'est l'objet de bibliothèques entières de la théorie politique depuis le XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que l'équité démocratique? Voilà, ça fait problème. En tout cas, ce thème, il est, si vous voulez, très constant. Donc vous voyez, pour résumer, le terme est tellement évaluatif, tellement valorisé, que ce mot démocratie, finalement, s'oppose à tout ce qui est tenu pour négatif dans la politique. Il s'oppose à despotique, il s'oppose à arbitraire, il s'oppose à inéquitable. Bon. Donc vous voyez, pour finir sur le mot démocratie, on peut dire qu'il est redoutable, parce que c'est un très beau mot, mais très chargé de promesses. Ce mot de démocratie est chargé de promesses. Peut-être des promesses qu'on ne peut pas tenir, qu'il ne peut pas tenir. Vous voyez, on peut dire en tout cas que la démocratie est souvent perçue en creux, en négatif, par son défaut. On sent que quelque chose n'est pas démocratique. On a du mal à dire ce qui est démocratique, mais on sent que quelque chose, une situation, une politique n'est pas démocratique. Alors, maintenant, le mot représentatif, représentative, ce mot est plus facile en un sens parce qu'il n'a pas du tout la même extension. Il n'a pas la même connotation idéale. Il renvoie d'abord à la dimension technique d'une traduction de l'expression démocratique. La démocratie est représentative parce qu'on a voulu traduire l'expression plurielle des opinions des gens. Première remarque. Deuxième remarque, il faut quand même noter que la représentation, la notion de représentation qui va mobiliser notre réflexion, eh bien cette notion de représentation a été adoptée majoritairement par toutes les nations modernes. Toutes les nations modernes ont adopté le système de la représentation pour traduire la démocratie. Ça, c'est intéressant. Tout se passe comme si on avait un fait historique lourd, un fait majeur. Il y a un moment donné dans l'histoire européenne où on a adopté le principe de désignation des représentants pour traduire la démocratie. Alors, vous voyez, on est arrivé ici au troisième moment de l'introduction. Voilà donc des évidences. Tout le monde sait cela, dès qu'il réfléchit un peu, dès qu'il regarde un petit peu les sources qu'il peut avoir à sa disposition, en bibliothèque ou sur Internet. Cependant, vous voyez, ça pose de sérieuses questions. Ce simple repérage pose de sérieuses questions. Premièrement, vous connaissez peut-être le proverbe italien, traduttore, traditore. Traducteur, traître. Cette traduction de l'opinion des gens grâce à la représentation, n'est-elle pas toujours une trahison ? Comment est-il possible de désigner un mandataire qui exprime parfaitement nos opinions, alors qu'on a tout à l'heure concédé que ces opinions étaient plurielles, étaient différentes? Alors voyez, livrons-nous un petit exercice là de repérage des types de représentation. Faisons une typologie des représentants. Alors, dans quelles circonstances de l'existence sociale et politique on nomme des représentants? Cette notion de représentation, elle concerne quel type d'expression? Est-ce que vous avez des représentants? Il y a des délégués ici. Comment ça, il n'y a pas de délégués ici? Levez la main, les délégués. Bon, voilà une déléguée. Déléguée, dans le fond, ces délégués ont été élus au terme d'un processus qui va nous intéresser beaucoup, qui est donc le processus de la désignation par élection. On peut considérer que ces délégués ils relèvent de quelle catégorie? Est-ce que, dans les formes sociales éminentes, les formes sociales, pas forcément au lycée, hein, évidemment, mais dans le monde autour de nous, il y a plusieurs formes de représentation.
Bon, je vous aide. Représentation syndicale. Votre délégué ressemble à un représentant syndical. En effet, il est le mandataire de vos opinions et surtout dans une relation de travail. Il est pris dans une relation de travail. C'est-à-dire qu'il va essayer de traduire vos contraintes, vos aspirations vis-à-vis de gens avec qui vous êtes en relation de travail. Le but étant d'améliorer, il est mandaté pour améliorer vos relations de travail. Un mauvais délégué. Ça se trouve. Ne regardez pas comme ça, mademoiselle. Donc, ça peut se trouver un bon délégué aussi. Un bon délégué, c'est quelqu'un qui traduit vos opinions, vos aspirations, au sein d'un rapport de travail. Un délégué syndical, il traduit des relations, il exprime des positions formulées d'abord à la base par les travailleurs, de revendications dans le cadre d'un rapport social, avec en face donc des partenaires sociaux. Quelle est la qualité principale d'un délégué syndical? La fidélité, sans doute, la fidélité à ce qu'il entend. La capacité à retraduire. Eh bien, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est peut-être pas du tout la même chose pour les autres formes de représentation. Vous allez voir, à regarder les choses d'un peu près, c'est terriblement complexe. Prenons d'autres cas, la représentation théâtrale. Dans la représentation théâtrale, l'acteur sur scène, que fait-il? Il dit le texte d'un auteur. Le fait de dire le texte d'un auteur fait qu'il n'a pas à négocier avec le texte de l'auteur. Il dit le texte d'un auteur devant des spectateurs. Apparemment, sa fidélité, la qualité de sa représentation, dépend de sa fidélité la plus grande possible au texte de l'auteur. Donc il est le porte-parole le plus neutre possible d'un texte qui existe déjà. Le délégué syndical, c'est assez différent. Il doit composer avec les conflits sociaux possibles. Il doit composer aussi, d'un autre côté, avec simplement la capacité d'action qui est la sienne, compte tenu, par exemple, du bilan comptable de l'entreprise. Peut-être que les revendications des travailleurs ne peuvent pas, objectivement, être satisfaites en termes salariales parce que la situation est mauvaise, par exemple. Prenons un autre cas, la représentation diplomatique. Un ambassadeur. Peut-être parmi vous ici, certains seront un jour ambassadeurs, rêvons un peu, on est là pour ça. Plénipotentiaires, des gens qui vont négocier un traité, dans la représentation diplomatique. Qu'est-ce qu'on attend d'un ambassadeur? Alors, attention, la représentation diplomatique, il y a l'ambassadeur, et il y a le Sherpa, comme on dit, celui qui va négocier le traité en amont, et ensuite, les ministres des Affaires étrangères ou le président de la République vont signer le traité. Bon, c'est pas pareil. Mais quand même, dans tous les cas, la représentation est assez différente, il me semble. Dans ce cas-là, il me semble d'abord pour un ambassadeur qu'on lui demande d'avoir une sorte de train de représentation, d'apparence représentative. Il représente, non pas lui-même bien sûr, mais il représente, pas seulement si vous voulez, tel gouvernement français, il représente l'État français et toute la culture française. La notion de représentation ici est évidemment celle d'un porte-parole qui va négocier, comme on a vu précédemment, mais ça se charge d'autre chose, une sorte de gravité extrêmement forte. D'autre part, il faut évaluer la latitude dont bénéficie la représentation diplomatique. Un ambassadeur, et plus encore un plénipotentiaire en situation de crise, bénéficie d'une sorte de latitude vis-à-vis de ce qu'on leur a dit. Ils doivent composer. Admettons qu'ici, on soit les représentants de la France, dans une ambassade assiégée par un pays ennemi, avec des ressortissants qu'il faut protéger. On a mandat pour libérer, exfiltrer, si l'on veut, dignement, les ressortissants français. Vous voyez, notre fidélité, entre guillemets, à notre situation, à notre mandat, est très différente de celle du syndicaliste et de l'homme de théâtre. Dernier cas, auquel vous pensiez évidemment rapidement, immédiatement, spontanément, la représentation politique au double niveau du législatif et de l'exécutif. Législatif, création de la loi par nos représentants, députés, sénateurs. Exécutif, dans le cas de la Constitution de 1958, où le président de la République est élu au suffrage universel, ce n'était pas le cas avant, élection donc du chef de l'exécutif, élection donc de celui qui se trouve au plus haut degré du pouvoir dans cette pyramide des pouvoirs qu'est la Constitution. Voilà. Alors, je laisse ces cas de côté, puisqu'évidemment, ce sont les cas majeurs pour nous. On va y réfléchir tout à l'heure de nouveau, sans cesse. Mais vous voyez, d'abord, c'est une représentation politique qu'on peut penser par rapport à la diplomatie, au théâtre et au syndicalisme. Il me semble que ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça engendre un type de problème très particulier donc, que cette intervention cherche à serrer. Alors, vous voyez, dans ces conditions, le fait que, c'est le dernier point de mon introduction, le fait que la représentation soit adoptée majoritairement dans les démocraties, est-ce que ça justifie pour autant le système représentatif? Ce n'est pas du tout sûr. Pourquoi on a adopté, premier point, pourquoi on a adopté la représentation politique? Il semblerait que ce soit plus commode. Dès lors qu'on est passé d'un système de micro-cité, comme chez les Grecs et chez les Romains, à un système de nation complexe à gérer, peut-être que la représentation semblait quelque chose de plus commode, la délégation de quelqu'un qui est le porte-parole et qui rassemble une pluralité dans son discours.
Simplement, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. Je l'ai juste suggéré, je l'ai juste évoqué. Comment se fait le mode de désignation des représentants? Sur le mode de l'élection. C'est peut-être ça qui fait problème. Peut-être que la représentation est moins problématique que ne l'est le mode de désignation des représentants, l'élection. Peut-être que l'élection pose le problème de la traduction des voix des citoyens. Alors, on va y revenir, vous allez voir. N'y a-t-il pas un meilleur mode que l'élection? N'y a-t-il pas un meilleur mode que l'élection dans la désignation des représentants? Eh bien, je soutiens, mesdames et messieurs, qu'il y en a un bien meilleur. Je vais vous en convaincre à la fin de cet exposé. Alors, dernier point, vous allez voir, qui commence à alourdir mon propos, à le rendre, si l'on veut, plus politique. Cette affaire, n'oublions pas qu'elle a été adoptée progressivement dans un contexte historique spécial. Ce contexte historique, souvenez-vous, c'est la sortie du système féodal pour entrer dans le système démocratique. Qui est-ce qui faisait la politique avant? Le roi et les aristocrates. Le système de la représentation n'a-t-il pas institué une nouvelle forme de noblesse? L'élection par elle-même ne réinstitue-t-elle pas de la noblesse? Elle a été créée pour se substituer à la noblesse dynastique. Elle réintroduit une noblesse de type républicain. En effet, le processus même de l'élection donne à penser, au terme de l'élection, chacun le sait ici s'il a voté récemment, on a désigné l'élu. Vous avez tous vu Matrix? Il est question d'élus dans Matrix. Eh bien, le processus de ritualisation de l'épreuve dans Matrix, savoir qui est l'élu, celui qui va survivre au terme de l'épreuve, eh bien, comme chez les Jedi exactement, eh bien, si vous voulez, chez nous c'est pareil, on a désigné l'élu. Vous voyez, cette notion d'élu, elle porte en elle-même l'idée d'une, j'attire votre attention sur ce terme, est très important, d'une distinction. Il y a une distinction supérieure. L'élection permet de distinguer le meilleur. Le meilleur, en grec, Aristos. L'élection est typiquement aristocratique. L'élection est un processus de désignation du représentant de type aristocratique. On va y venir. Bref, il me semble que la notion de représentation est peut-être la moins bien adaptée pour traduire la démocratie. Peut-être tant qu'elle est arrimée au mode de désignation qui est le mode de désignation par élection des représentants. On va y revenir. Alors, je vais procéder en trois temps. Dans un premier moment, je vais développer des considérations historiques rapides. L'apparition de la démocratie représentative. Dans ce premier moment, je procéderai en remarquant d'abord que les inventeurs de la démocratie ont purement et simplement refusé la représentation. Ceux qui ont inventé la démocratie ont refusé la représentation. Il s'agit évidemment des Grecs, et en particulier des Athéniens, dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, en gros, la plupart du répertoire de théorie politique vient des Grecs. Un peu des Latins, mais surtout des Grecs. Eh bien, dans l'Antiquité, si vous voulez, les Grecs, qui ont opté à Athènes en particulier pour la démocratie, pendant environ un siècle, plusieurs dizaines d'années en tout cas, l'entendaient, cette démocratie, sur le mode direct. Chaque citoyen venait se représenter. Si nous étions ici une société complète, nous serions fidèles aux Grecs si nous décidions que chacun exprime son point de vue sans qu'il y ait besoin de représentants. Alors attention, ça prenait des formes considérablement importantes puisque il y avait à Athènes, il y avait 6000, si vous voulez, 6000 citoyens dans l'assemblée, sans moyens électroacoustiques comme des micros. Vous voyez, ça donne une idée de ce qu'était la démocratie athénienne. 6000 personnes avec des systèmes de parole extrêmement équitables, avec des clepsydres qui mesuraient le temps de parole de chacun et qui permettaient ensuite, après la discussion, de prendre des décisions, alors par des modes variés, notamment des modes désignation directe des choses, de décision collective par des votes majoritaires. Alors, deuxième point, et j'attire votre attention sur l'extrême importance de ce point, ça n'empêche pas qu'il y avait des représentants concernant certaines tâches. Par exemple, le président de l'Assemblée, pouvoir énorme. Le président de l'Assemblée, c'est lui qui donne la forme, bien entendu, des débats. Il décide des questions qui vont être mises encore aujourd'hui, qui vont être mises à l'ordre du jour. Donc c'est c'est un poste extrêmement important. Eh bien, comment était désigné ce représentant extrêmement important, d'autres, par exemple, comme général en chef, responsable des armées? Eh bien, ils étaient désignés par tirage au sort. Si nous étions ici une société complète, nous procéderions au tirage au sort de la personne qui viendrait organiser les débats. Tirage au sort de la personne qui s'occuperait de la police et de l'armée. Vous voyez l'extrême force démocratique de ce mode de désignation des représentants. Du fait que, du fait précisément que ça implique que tout soit à parité. Si vous, mademoiselle, vous pouvez être chef de l'armée, votre mandat sera circonscrit, bien sûr, ce sera un mandat précis, vous serez chef de l'armée pendant un an. C'est qu'on estime que vous avez autant de compétences que ce garçon qui est ici, qui a l'air spécialement belliqueux. Eh bien, n'empêche que le tirage au sort a décidé que c'était vous qui a pendant un an, et pas lui qui peut-être a plus de compétences naturelles parce qu'il est plus sportif, etc. Eh bien non. Vous voyez, ce système a une force de traduction de l'équité, de traduction équitable de la pluralité démocratique, qui est sans doute plus important que notre mode de représentation par élection, de désignation de représentants par élection. Je vais y venir tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur les Grecs. Deuxième point de cette première partie, comment s'est fait l'apparition de la représentation, justement, chez nous, en Europe, dans la modernité? La modernité, c'est une époque qui commence environ 16e, 17e siècle. Eh bien, comment ça s'est fait? On pourrait faire tout un cours là-dessus, c'est l'objet d'ailleurs d'un enseignement précis. La question de la représentation, si vous faites un jour Sciences Po, vous aurez peut-être un cours par un juriste, un historien ou un politiste ou un philosophe sur cette question de la représentation. Eh bien, le collègue qui fera ça isolera obligatoirement deux moments, un au XVIIe siècle et un au XVIIIe siècle. Premier moment, ça se confond avec la pensée d'un Anglais qui s'appelle Thomas Hobbes. Cet Anglais composait dans un contexte de guerre civile extrêmement féroce. Presque l'équivalent du Kosovo. La guerre civile. Dans ses ouvrages, en particulier son ouvrage majeur qui s'appelle Le Léviathan, en 1651, Hobbes estime que pour penser la politique, il faut faire comme faisait à son époque Galilée. Il faut faire en politique désormais comme on fait en science. Il faut procéder à des expériences mentales. Vous savez comment on fait dans le processus expérimental, on fait une hypothèse et on la teste en laboratoire. Eh bien, Hobbes révolutionne la théorie politique parce qu'il dit, voilà, procédons expérimentalement, imaginons par hypothèse les hommes dans l'état de nature. Hypothèse scientifique. Or, cette hypothèse, on va la connoter de manière réaliste. Les biens auxquels nous aspirons, les biens que nous désirons, les biens, par exemple cette montre, sont en nombre limité et nous sommes plus nombreux à désirer qu'il y a d'objets. Donc nous rentrons dans des rapports de conflit. Non pas que l'homme soit méchant, simplement, il se trouve qu'il désire des objets qui sont rares et éphémères. Donc on est dans des rapports un peu de tension qui peuvent évoquer la guerre de tous contre tous. C'est une guerre plutôt froide, ça ne dégénère pas toujours. Simplement, ça nous met en péril, et ça met en péril profondément cette tendance, dit Hobbes, que nous avons à vouloir survivre. Notre condition naturelle est une condition asociale, sans socialité. En tout cas, elle est sans sociabilité. On n'est pas fait pour vivre ensemble, on doit vivre ensemble, et on n'est pas fait pour vivre ensemble. Vous voyez, vision assez réaliste, assez pessimiste même. L'homme a une socialité nécessaire, il doit vivre avec les autres, mais il n'est pas fait pour ça. Il n'a pas de sociabilité. Donc, il faut instituer des règles. Et on institue direct, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on institue la souveraineté. On institue la souveraineté. Alors, le souverain, c'est soit une personne, soit une assemblée, et on procède à un contrat. Admettons que nos relations ici, dans une société complète, soient tellement tendues, tellement violentes potentiellement, qu'on est obligé de lâcher un peu de lest, on va reculer sur notre désir, on va dire, voilà, bon, on va précisément élire un représentant. Ce représentant, j'attire votre attention sur le fait que le représentant, il va être souverain. Il aura tous les pouvoirs sur nous. Il aura tous les pouvoirs sur nous parce que notre sécurité est à ce prix. Si notre représentant n'avait pas le pouvoir, de nouveau, il y aurait de l'insécurité. Vous voyez, donc la représentation, elle naît dans le contexte de la naissance de la souveraineté, cette souveraineté étant quelque chose d'absolu. Hobbes est un auteur étrange, à la fois libéral, dans la société de nature, enfin, dans l'état de nature, c'est pas vraiment une société, chacun est à équité avec les autres et exprime dans une compétition généralisée son point de vue. Mais en même temps, c'est un auteur absolutiste, d'une certaine manière, bizarrement par le biais d'un contrat. Le contrat nous oblige à respecter absolument la parole qu'on donne. Voilà. Alors bon, ça c'est un point que vous étudierez de nouveau sans doute en cours, puisque c'est quand même au programme de terminale, ce genre de choses. Moi je passerai tout de suite au deuxième point, qui semble plus tempéré, qui est lié à la pensée d'un autre auteur majeur, qui est Montesquieu, au XVIIIe siècle. Alors, cet auteur français du XVIIIe siècle a écrit un ouvrage extrêmement important qui s'appelle « De l'esprit des lois » en 1748. Dans « De l'esprit des lois », Montesquieu prend le contre-pied de Hobbes. Il veut montrer que la pensée de Hobbes est une pensée absolutiste, souverainiste, qui n'a pas pris en compte la pluralité des formes de vie. Montesquieu est un ethnologue, si l'on veut. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui explique que il y a des formes très variées de vie commune, et donc des lois extrêmement variées. Donc sur la base, vous voyez, d'une pluralité constatée, une pluralité observée, Montesquieu met en avant le fait que, il faut trouver des formes d'association politique qui correspondent à cette liberté. Et c'est là qu'apparaît la notion de représentation. Il explique que la meilleure des choses qui puisse exister, la plus commode, c'est de déléguer notre voix à quelqu'un qui est le mieux placé pour s'en occuper. Montesquieu explique à son époque, 1748, que le mieux, c'est que chacun vaque à ses affaires et qu'on trouve une personne qualifiée, c'est très important, qualifiée, distinguée, pour représenter les autres. Sans souveraineté excessive. Simplement, le peuple n'est pas le mieux placé, le peuple au sens social du terme, la population, la populace, les travailleurs, les paysans, ne sont pas les mieux placés pour exprimer le point de vue des autres. Le peuple a une compétence, c'est de discerner le meilleur candidat. Mais il n'a pas une compétence pour agir. Précisément, il serait bien embarrassé, le peuple, d'être en représentation au niveau national. Il ne pourrait pas s'exprimer clairement. Peut-être qu'il n'est pas assez formé pour ça. Donc, vous voyez, Montesquieu, que toute la modernité va suivre sur ce point, Montesquieu réfléchit en termes de notabilité. C'est la notabilité au sens social du terme qui fournit la matière du principe de distinction. Voilà. Alors, sur cette base, je passe à ma deuxième partie, qui est une approche thématique maintenant, une approche thématique qui va préciser un peu les concepts qu'on a utilisés. Donc, quels sont les modes, les manières de faire de la démocratie représentative? Je vais isoler deux points particuliers, deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect qui concerne le vote comme manière, comme mode de participation civique. Le vote comme manière, comme mode de participation civique. La démocratie est une affaire de participation. Il y a démocratie quand les gens participent. C'est un mot un peu magique de la théorie politique, participation. Ici, on va commencer à faire de la politique si, tout d'un coup, je dis qu'on a tous le droit de participer. On va énoncer nos règles de vie commune, et on va désigner nos finalités, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. On va participer. Eh bien, dans une démocratie représentative, c'est le vote qui sert à la participation. Alors, le vote, c'est une opération qui semble, vous avez déjà voté pour vos représentants, peut-être certains ont déjà voté politiquement, vous êtes citoyen, c'est une opération devenue banale, mais elle n'est pas du tout banale, elle est même franchement étrange. Elle est franchement étrange, en effet, pourquoi? Dans ses relations avec le peuple. Dans ses relations avec le peuple. Je vous rappelle qu'en démocratie, je l'ai énoncé rapidement tout à l'heure, On reconnaît une démocratie à la souveraineté du peuple. On reconnaît une démocratie à la souveraineté du peuple. Or, le peuple, c'est quoi? Le peuple, alors c'est quoi? Quand on vote, qu'est-ce qui se passe quand on vote? Alors, première chose, on vote dans un isoloir. On vote isolé des autres. On vote dans le secret, le retrait, soustrait aux pressions des autres, au regard des autres. C'est très important. Un vote à main levée, au su et au vu de tout le monde, parfois, on peut dire qu'il y a des pressions sur les gens. Une assemblée générale un petit peu échauffée, même franchement excitée, fait que si quelqu'un a pris la parole, il peut déstabiliser l'opinion publique. Donc là, on vote dans l'isoloir. Vous voyez, le peuple, ça va être l'ensemble des votes. On va voir, je vais préciser cette idée dans une minute. Quoi qu'il en soit, le peuple obéit à une sorte de fragmentation politique. Le peuple, c'est d'abord les gens qui vont voter isolément. Il y a une fragmentation politique pour créer une entité collective, bizarrement. Donc c'est bizarre, ça, déjà. Deuxième chose, et plus gravement, bah précisément, ce qu'on appelle le peuple, c'est quoi? C'est l'ensemble des votants. Ça, c'est un peu formel. C'est l'ensemble des votants quand ils ont voté. Il n'y a pas de peuple. Il y a des suffrages populaires. On entend par le peuple, eh bien, le résultat d'un suffrage dans la démocratie parlementaire, la démocratie représentative. C'est-à-dire que le peuple a décidé, on sait ce qu'il a décidé rétrospectivement, de désigner le président Sarkozy comme président. De désigner tel représentant à la députation nationale pour faire les lois. Hein, vous avez un député. À moins que, et ça devient beaucoup plus grave, une fois qu'on a voté, le peuple, ce sont les représentants. Le peuple, il est où en France? À la Chambre des députés. Le peuple de France se trouve à la Chambre des députés. La version tangible du peuple, la version tangible de la souveraineté populaire, elle est clairement quand l'Assemblée dans l'hémicycle, si vous voulez, quand l'Assemblée débat. Vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'il y a une sorte de transfert, une sorte de déplacement du centre de gravité des principes politiques, souveraineté du peuple, à une réalité qui est une réalité qui est très très concrète. C'est des gens qui sont élus par les autres et qui vont les représenter. Ils sont le peuple. Ils ont une écharpe, ils sont le peuple. Alors, maire, par exemple, pour l'écharpe, etc. Alors, c'est un point très important, mais j'arrive au deuxième aspect morphologique, si vous voulez, de cette deuxième partie. La procédure de distinction, qu'est le vote? Il faut la souligner comme telle, c'est une procédure de distinction. Cette procédure de distinction, ses effets sont instituants. Une procédure de distinction dont les effets sont instituants. Je vais expliquer ces mots complexes. Procédure de distinction. Premier point, je vais réfléchir sur ce que les Grecs ont souligné. Dans une démocratie représentative, il y a une campagne. Les délégués ici ont fait campagne. Ils se sont présentés. Et normalement, ils ont annoncé leur programme. Et cette campagne, elle est, vous savez, d'un mot du grec, on dit qu'elle est concurrentielle. Bon, et d'un mot tiré du grec, on dit qu'elle est agonistique, agone. Agone, ça désigne le combat. Donc il y a une compétition, quoi, entre les candidats. Il y a une compétition entre les candidats. Au terme de cette compétition, on désigne donc les meilleurs. Alors, ces candidats, bon, c'est pas le cas dans une classe, mais ces candidats, dans un système nationalisé, ils sont les candidats des partis. Ces candidats, ils ont été sélectionnés par les partis. Alors, on a pu mettre en lumière le fait que ça relevait de ce qu'on appelle une oligarchie. Il y a une oligarchie à la base de la démocratie. Oligarchie, ça veut dire aristocratie, ça désigne une notion d'aristocratie, mais sans continuité dynastique, sans grande famille. Une oligarchie, c'est un système des meilleurs, mais qui n'est pas aristocratique. Donc, vous voyez qu'il y a donc l'idée d'un combat, de quelque chose qui est agonistique, comme on dit, et d'autre part, l'idée d'une oligarchie. Donc dans tous les cas, ce qui est en question, c'est la notion d'égalité là-dedans. Le mode de désignation des représentants est un mode qui désigne, qui rompt le pacte d'égalité implicite dans une démocratie. Ici, on considère que certains sont plus aptes que d'autres, c'est ce que disait Montesquieu, hein, sont plus aptes que d'autres à représenter les... Pourquoi ils sont plus aptes? Pourquoi ils sont plus aptes? Parce qu'ils sont plus intelligents. Ils manient mieux la parole. Quand on est désigné aux plus hautes charges de la création de la loi, député, sénateur, quand on est désigné par le peuple directement comme appelé aux plus hautes responsabilités de l'État, président de la République, c'est qu'on passe pour être le meilleur. Vous voyez, donc ici, il y a l'idée de quelque chose qui est totalement antidémocratique, d'une certaine manière, si la démocratie se définit par l'égalité. Alors, surtout que, et c'est le deuxième point et le dernier point de cette deuxième partie, surtout que cette procédure de distinction a un effet instituant. Un effet instituant. Une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que la personne est au pouvoir, attention, elle ne représente pas seulement ceux qui ont voté pour elle. Elle représente tous les citoyens. Elle devient une personne publique dont la dimension est celle de l'État. Elle devient un homme d'État ou une femme d'État. Le candidat, une fois élu, est transfiguré dans le système de la représentation. Il change de statut. Figurez-vous que le député de votre circonscription, on dit de lui dans le code constitutionnel qu'il n'a pas été élu par sa circonscription, mais dans sa circonscription. Vous écouterez les journalistes qui sont sensibles à cette distinction. Quand on est élu dans sa circonscription et pas par sa circonscription, et c'est le terme technique, ça veut dire qu'on n'est pas élu par les gens, ce n'est pas du clientélisme. Nous ne pouvons pas attendre, par conséquent, de l'élu un retour sur investissement. Bon, j'ai voté pour vous, qu'est-ce que vous me donnez ? Non, vous n'avez pas compris, je suis maintenant l'élu des autres aussi. La majorité a désigné, m'a désigné, mais je suis aussi, mettons que vous ayez voté pour moi, je suis votre élu, et vous non. Eh bien, je suis désolé de vous dire que je ne vais pas faire une politique spécialement en votre faveur. Bien sûr, vous avez voté pour moi, on se reconnaît. Mais je vais quand même lui donner un peu satisfaction, dont vous risquez bien d'être fortement mécontente à mon égard. Et c'est ce qui se passe souvent. On vote pour un candidat avec un programme. Quand il devient l'homme d'État, quand il triomphe à l'élection, eh bien simplement, on est déçu parce qu'il ne peut pas faire exactement ce qu'il a dit. Il doit normalement représenter les autres aussi. Il y a un effet d'institution. Alors cet effet d'institution est très important, ce n'est pas une formule vaine, hein. C'est que la légitimité d'un homme d'État dépend de sa capacité à rassembler. Le candidat, il s'adresse à des électeurs, l'élu, il s'adresse à toute une population, et sa légitimité dépend, donc l'efficacité de son pouvoir dans une démocratie, dépend de sa capacité à rassembler. Un homme d'État qui ferait une politique trop liée au candidat qu'il a été, ne serait pas suivi dans sa légitimité. Il y aurait peut-être même des facteurs, des phénomènes même, de désobéissance. Les gens ne se reconnaîtraient pas dans cette option qu'il a prise en disant « Mais attention, non seulement je n'ai pas voté pour lui, mais sa politique, en tant qu'homme d'État, est une politique, si vous voulez, trop partisane. » Vous voyez, c'est très important cet effet d'institution. La représentation ne peut pas marcher si le candidat ne se transforme pas en élu. D'autre part, les effets de la légitimité, c'est le dernier point, sont extrêmement difficiles à préciser. Quelqu'un qui a été transfiguré en élu, vous voyez, je prends des termes théologiques, religieux. Quelqu'un qui a été transfiguré en élu possède un charisme, une dimension supplémentaire. Voyez par exemple les anciens présidents de la République. Les anciens présidents de la République, aux USA ou en France par exemple, subissent une telle, si vous voulez, aura. Ils ont une telle aura. Hein, ils bénéficient d'une telle aura, je devrais m'exprimer ainsi. Voilà. Et donc ça c'est intéressant parce qu'il y a dans l'élu quelque chose de plus grand. Ici, par exemple, vos élus, c'est encore vous, vous êtes au premier rang presque, vos élus possèdent une forme d'aura. On sait qu'un élu, quand même, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui va devoir aller au conseil d'administration, éventuellement, s'il est élu des élus, pour se mouiller un peu quand même. Vous voyez, donc il y a une sorte, cette fille-là, ça a été notre élu, et c'était pas mal ce qu'elle a fait. Vous voyez, donc il y a une sorte de surcroît moral de légitimité extrêmement intéressant. Alors, j'aimerais, si vous voulez, dans un troisième temps maintenant, c'est le troisième moment de mon intervention, souligner les limites du système, les problèmes qu'il rencontre, et évoquer les évolutions possibles. Plutôt en conclusion, on verra. D'abord, les limites. Dans le système français, on a refusé ce qu'on appelle le mandat impératif. On a refusé le mandat impératif. Il y a un article de la Constitution qui dit « Le mandat impératif est nul ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Un mandat impératif est un mandat où on doit des comptes, on doit rendre des comptes en permanence aux électeurs. On a préféré un mandat qui donne une autonomie à l'élu. C'est-à-dire que le député, donc je le disais, n'est pas élu par sa circonscription, mais dans sa circonscription. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de rendre des comptes. C'est au terme du mandat qu'on rend des comptes, mais pas pendant le mandat. Donc ça pose un problème, si vous voulez, le fait d'avoir refusé le mandat impératif. On voit bien à quoi ça sert. Ça sert à transformer la démocratie indirecte en gouvernement représentatif. Il y a un grand auteur qui s'appelle Bernard Manin, qui est un théoricien politique actuel. Qui estime que, on peut le dire maintenant, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Les Grecs qui ont inventé la démocratie ne reconnaîtraient pas du tout notre système. Nous sommes dans un gouvernement représentatif. Pourquoi ? La représentation permet l'autonomie d'un gouvernement. On peut gouverner ce pays parce que précisément, il n'y a pas de mandat impératif. Gouverner, ça veut dire prendre des décisions dont on n'est pas immédiatement comptable. On a une autonomie, une marge de manœuvre. Vous voyez la différence de la représentation politique par rapport à la représentation théâtrale, par rapport à la représentation syndicale. Vous imaginez la différence? Elle est énorme. Un syndicaliste qui ne rend pas des comptes de ce qu'il a fait, il n'a aucune chance de durer. Même la représentation diplomatique, peut-être qu'elle s'en rapproche, la représentation diplomatique. En tant que l'ambassadeur, il essaie d'ajuster un peu. Enfin, même lui, il est beaucoup plus lié à ce qu'on lui a demandé de faire. Il est pieds et poings liés. L'ambassadeur a très peu de latitude. Dans la représentation politique telle qu'on l'a évoquée, là, eh bien, si vous voulez, au contraire, c'est un gouvernement représentatif. Alors, du coup, vous voyez, c'était le premier point. Deuxième point, tout à fait embêtant quand même, il y a une distance considérable, par conséquent, entre les électeurs et les élus. Cette distance considérable, ça pose un autre problème, c'est qu'elle confère à la notion de peuple une définition très bizarre. Il y a un autre auteur très très important de nos jours qui s'appelle Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon qui parlait, je crois, avec une très grande justesse de peuple introuvable. Le peuple est introuvable. Hein, c'est le titre d'un de ses ouvrages, Le peuple introuvable. Mais voilà où nous en sommes. D'ailleurs, on peut conclure en disant, du coup, vous voyez que Rousseau avait tout à fait raison quand il condamnait fermement la représentation. Le troisième père fondateur de notre système, Rousseau, et sa notion de volonté générale, eh bien, si vous voulez, nous incite à dire que s'il y a représentation, il n'y a pas démocratie. Dans la démocratie, la volonté générale doit être pleine et entière en permanence. Alors, comment la traduire? C'est un vrai problème. D'où les évolutions possibles. Quelles évolutions, compte tenu de cette situation, effectivement, de confiscation de l'opinion populaire? Alors, moi, je crois qu'il y a deux perspectives. Et c'est là-dessus, peut-être, qu'on va discuter ensemble. Soit on sauve la notion de représentation. Vous sortirez de cette salle en sachant si vous voulez conserver ou ne pas conserver la représentation. Parmi vous, certains vont peut-être vouloir sauver le système représentatif. Alors, comment on va le sauver? Parce que tout le monde est mécontent, en somme, finalement. Tout le monde est mécontent. On vote pour des gens, on les attend comme des élus, comme des messies, et puis en fait, bon, on est très déçus. Tout le monde est déçu. Les opposants sont déçus, ceux qui étaient pour sont déçus aussi. Alors, du coup, repensons donc, peut-être, le mode de désignation des représentants. Repensons d'abord le mandat. Peut-être qu'il faut injecter du mandat impératif. Peut-être que régulièrement, le sénateur... Bon, le sénateur, on peut discuter, mais le député, le président de la République, doivent être confrontés à des citoyens qui vont leur dire, mais on n'est pas du tout d'accord, une sorte de reddition de comptes, rendre des comptes régulièrement aux électeurs. Vous voyez donc, revenir à un mandat impératif. Alors, le problème, c'est que, terriblement, ça peut créer un système de manque d'autonomie des élus. Les élus ne pourront peut-être plus du tout agir. Bon, peut-être qu'il faut... Telle serait ma conviction profonde. Et je vous demande de la partager, s'il vous plaît. Favoriser le tirage au sort. Si nous sommes des citoyens égaux dans cette démocratie française, nous allons pouvoir tirer au sort nos députés. Tirons au sort nos députés. Casier judiciaire impeccable. Quoi d'autre? C'est tout. Voilà. Si vous avez 18 ans et qu'on peut peut-être mettre un âge... Pour créer des lois, quoi. C'est sûr que c'est difficile. Le député, il va créer la loi collectivement avec les autres. Donc on peut mettre peut-être à 30 ans? Non, avant, alors. Bon, d'accord. Tirons au sort nos députés. Eh bien, mesdames et messieurs, allons plus loin. Tirons au sort la charge suprême de l'État. Tirons au sort la présidence de la République. Peut-être dans un panel resserré, sociologiquement. Peut-être que la gravité de ses fonctions, leur importance suprême, par exemple sa capacité à déchaîner le feu nucléaire, implique qu'il y a peut-être des conditions spéciales, mais admettons qu'on va pluraliser, la représentation, le mode d'accès à la représentation, en faisant un système de tirage au sort. Alors, entendons-nous bien. Le système qui est évoqué derrière, vous voyez, c'est le système du jury d'assises. Le tribunal du jury d'assises, vous pouvez faire partie d'un tribunal de jury d'assises, on est tiré au sort comme juré sur les listes électorales. Vous voyez, c'est un peu le même système. C'est-à-dire qu'on va, demander un travail à la personne une fois qu'elle est désignée par tirage au sort. Alors évidemment, on ne peut pas aller jusqu'au bout parce que s'il y a un avantage qui consiste à restituer la parité, l'égalité démocratique, ici, si on est une société complète, la société complète du lycée François Truffaut de Bondoufle, eh bien, n'importe qui peut être notre représentant. Eh bien, l'avantage correspond à un inconvénient majeur, c'est que ça fait croire, il y a une illusion terrible, c'est l'illusion que la politique ne relève pas d'un métier. L'illusion que la politique ne relève pas d'une professionnalisation même. Ce système de représentation, basé sur la notabilité notamment après la Révolution française, il a été lié à une professionnalisation des tâches. C'est pas facile d'être député, c'est pas facile d'être président. Alors évidemment, on pourrait dire qu'il y a aussi un autre phénomène qui n'est pas seulement la technicité des questions, c'est la compétence. Est-ce que vous vous sentez, vous, la compétence d'aller négocier un traité de paix, un accord économique? Il faut des ressources considérables. Et vous voyez, j'attire votre attention sur le fait que si l'on a choisi peut-être le mode de désignation par représentation, c'est en fait parce qu'on craint l'activité politique. On a délégué à des spécialistes l'activité politique, elle fait peur. Ce système nous met en paix avec notre peur du politique. Alors simplement, il y a d'autres manières de faire, et je terminerai là-dessus. Peut-être qu'on peut repenser la représentation elle-même, supprimer la représentation. Alors il y a des thèses en ce moment en théorie politique, il y a des thèses qui depuis 15 ans, 10 ans, il y a deux thèses en présence. La thèse de la démocratie participative, la thèse de la démocratie délibérative. Alors, participative d'abord, eh bien, ça reprend un peu l'idée du tirage au sort. On va tirer au sort des conseils, et ces conseils auront d'abord un avis consultatif, et ensuite un avis éventuellement décisionnaire. Voilà. On va, vous voyez, donc, nourrir la société de pluralité. Alors, il y a un vice caché là-dedans. Peut-être vous l'avez remarqué, lors des élections présidentielles, les candidats ont fait du participatif. Le problème, donc vous voyez, ça peut se mixer quand même avec la démocratie représentative. Le problème, c'est que la plupart des gens venaient pour exprimer un point de vue non politique. Par exemple, si vous êtes amateur de timbres, et vous amateur de voitures, vous allez voir votre candidat, vous dire, voilà, bon, qu'est-ce que vous ferez une fois élu pour les amateurs de timbres, les professionnels, enfin les gens qui aiment bien les voitures. Le problème, vous voyez, de la participation, c'est qu'elle fragmente encore plus le peuple. Les individus viennent aux candidats ou même vont exprimer des choses qui sont uniquement liées à leur intérêt. Or, vous voyez, ça souligne un point, ça. Faire de la politique, pour faire de la politique, il ne suffit pas d'avoir des intérêts. Il faut réfléchir au caractère politique des intérêts. Qu'est-ce que c'est que réfléchir au caractère politique des intérêts? C'est peut-être les nuancer, peut-être prendre en compte les autres intérêts, les intérêts adverses, trouver une solution dynamique où les intérêts ne sont pas lésés, bien qu'ils soient contradictoires. Et le mode de la participation est très sympathique, mais sûrement aussi très démagogique. Il donne l'impression aux gens qu'il suffit d'arriver et de donner son point de vue en politique pour faire de la politique. C'est beaucoup plus compliqué. Et au fond, chacun le sait. D'où le mode beaucoup plus ambitieux de la démocratie délibérative. On parle en théorie politique de nos jours d'horizon délibératif. L'horizon délibératif consiste à réapprendre aux personnes la parole publique. Par exemple, si ici on doit prendre une décision majeure, à quelle heure a lieu le repas? Combien de repas par jour? Combien, je sais pas moi, soyons gourmands, combien de desserts par jour? Alors on va prendre une décision collective. Est-ce que pour une éducation équilibrée, il ne faut pas faire beaucoup plus de sport? Eh bien voilà, on va décider. Il faut qu'on décide. Alors on va faire un débat. La notion de délibération implique une chose très importante. Il y a délibération quand on arrive à juger en son âme et conscience. Si moi je suis très sportif et quelqu'un n'est pas sportif, il y aura délibération si et seulement si nos points de vue, si on arrive à sortir de nos points de vue. On parle de délibération dans un jury d'assises. Alors, vous voyez, les choses sont graves. Admettons qu'on doit juger un coupable. Il y en a un là, tout désigné. On va juger un coupable. Attention, il y aura justice équitable si et seulement si on arrive à délibérer. Ça veut dire que si on arrive à juger en notre âme et conscience. Vous voyez cette notion de délibération ? Elle s'oppose à la notion de participation, en fait, bizarrement. Parce qu'en participation, on arrive, on donne notre avis. On participe quoi ? En délibération, les choses sont très graves. On doit savoir si on a bien débattu pour juger en notre âme et conscience si un prévenu est coupable ou non et quelle est la sanction éventuellement qu'on peut, dont on peut assortir son effet. Eh bien, voyez, dans la délibération, on va s'enfermer ensemble et on ne sortira pas tant que tout le monde ne sera pas d'accord. Alors, c'est coûteux. Ça veut dire que chacun doit participer à la délibération. Tout s'arrête pendant ce temps-là. On va donc avoir un défraiement ou un salaire pour ça. Il y a un salaire citoyen. Vous imaginez la complexité, il faut un salaire citoyen. Pour qu'il y ait vraiment démocratie, comme d'ailleurs le pensaient les Grecs, il faut instituer un salaire citoyen. On va être par exemple tiré au sort, admettons qu'il y ait du participatif dans le délibératif, c'est même obligé, on va être tiré au sort, et pendant ce temps-là, nos affaires, eh bien, on va les mettre entre parenthèses, et surtout, on va être payé pour aller s'exprimer ensemble dans un conseil qui aura voix au chapitre pour la décision. D'autre part, il faut que tout le monde soit à égalité. Certains parmi vous sont peut-être moins à l'aise que d'autres avec la parole. Moi, si j'avais affaire à un redoutable parlementaire, malgré ma capacité de parler, de réfléchir, peut-être que je serais perdant. Dans un système délibératif parfait, tout le monde est à égalité devant la parole. Ça veut donc dire qu'il faut former les gens. Le modèle délibératif retrouve l'idéal des Lumières, vous savez, le mouvement du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, chacun doit pouvoir accéder au savoir. Chacun doit pouvoir accéder au savoir. Mieux encore, les théoriciens de la démocratie délibérative disent que on est tous différents. Admettons que je sois, le hasard fait qu'on a été tiré au sort, je suis chef d'entreprise. Et vous êtes mon employé. On va se retrouver dans un conseil délibératif. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça risque d'être quand même un peu délicat pour vous. Vous êtes quand même en situation peut-être de demande sociale, hein, c'est-à-dire en tout cas de subordination. Eh bien, dans un système délibératif entre guillemets parfait et donc totalement idéal, je n'ai pas le droit de considérer que j'ai une sorte de ressource supplémentaire par rapport à elle parce que je peux agir sur sa vie. Il peut y avoir quelqu'un, par exemple, dans mon dos qui dit « Mais attention, monsieur Ménissier, vous avez dit ça à cette personne, mais tout le monde sait ici qu'elle est votre employée. Donc retirez ce que vous avez dit. » Parce que là, on pourrait imaginer que vous agissez sur elle. Dans un débat parfait, un débat délibératif, eh bien, si vous voulez, les gens sont pris dans l'abstraction de leur situation totalement égale de citoyenneté. Vous voyez, on parle d'horizon délibératif parce que peut-être que si on fait une démocratie de type délibératif, il y aura davantage d'égalité. Enfin, il s'agit d'un modèle intellectuel extrêmement difficile à traduire. Je vous remercie sur ces considérations. J'ai fini. Bon, alors, faut-il sauver le système représentatif ?
Tout tirer au sort. Parce qu'il y a quand même des incompétences parfois. Et donc, dans ces cas-là, sur quoi nous baserons tout sur dire lui va être avocat, lui va être chef d'entreprise ou autre. Il faudra tout tirer au sort.
Alors, attendez, là, vous confondez le niveau social et le niveau politique.
Dans ces cas-là, même au niveau politique.
Au niveau politique, moi, je disais.
C'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin de faire des vues pour devenir soit président, soit député ou autre. Ça sera du
alors, j'ai pas. Juste un mot, hein. C'est pas une vue de mon esprit, hein. C'est une théorie politique réfléchie. Alors simplement, non mais j'apprécie le côté provocant de la question. Il est évident que, j'ai travaillé un petit peu à la hache pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe en théorie politique de nos jours. Hein. C'est intéressant pour vous d'entendre des choses qui vont peut-être. Hein. Bon, là vous avez moins de 20 ans, vous allez connaître, je pense, d'ici 20-30 ans, des évolutions de cet ordre. Le système représentatif craque de toutes parts. J'aurais pu dire ça d'emblée, mais ça faisait un peu le Titanic cool que faisons-nous. Donc j'ai évité de procéder comme ça. Mais vous allez connaître des évolutions de ce genre. Simplement, il est évident que l'obstacle auquel vous faites référence est majeur. Donc ce qu'on fait, généralement, c'est que les théoriciens... Il y a deux positions. Les théoriciens de la démocratie par tirage au sort estiment ou bien qu'on peut adopter le principe du tirage au sort, ou bien qu'on doit le nuancer. Pour les premiers, ils disent, voilà, peut-être que, comme la démocratie est soumise à... Enfin, la politique est soumise à une professionnalisation. C'est bourré d'experts, la politique. Ça a toujours été, depuis un certain nombre d'années, bourré d'experts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision, même quand on est élu, sans demander à 10 experts. Eh bien, les experts, on va leur donner la tâche d'instruire les dossiers pour les gens qui devront choisir. Première chose, toujours dans les tenants du principe dur du tirage au sort. Ce n'est pas une personne qui va être tirée au sort pour une fonction. C'est une pluralité. La présidence de la République, ça sera 3 personnes tirées au sort. Les incompétences et les compétences relatives de chacun se compensent. C'est les Romains qui avaient trouvé ça avec le système du biconsulat. 2 consuls. Le chef de l'exécutif, il n'y en a pas un, ils sont 2, désignés dans des factions rivales. D'autre part, il y a des gens qui nuancent le principe en disant « on va injecter un peu de tirage au sort ». On va injecter du tirage au sort relatif. On ne va pas massivement tout tirer au sort. Donc, le but du tirage au sort, vous voyez, est d'introduire de la pluralité au sein d'un système qui s'est sclérosé. Le système de distinction s'est sclérosé. Parce que je vais être aussi violent que vous. À mon sens, le processus de campagne, de vote, de distinction, obéit à des choses antidémocratiques. Il obéit à une reconnaissance affective entre le candidat et pourquoi on vote pour cette personne. On ne vote pas pour des raisons de réflexion politique, souvent. Dans un système en voie de dépolitisation comme le nôtre, où les gens préfèrent leur intérêt, on vote pour des gens qui nous ressemblent. Oh ben, je vote pour lui parce qu'il me ressemble. Le travail politique n'est pas fait, qui est un travail sur programme. Une fois qu'il est élu, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai pas lu. Les gens qui ont voté pour tel ou tel candidat, pour le président Sarkozy, ont-ils vraiment lu son programme ? Ont-ils vraiment travaillé politiquement ? Ont-ils vraiment réfléchi ? Se sont-ils emparés de la possibilité démocratique d'agir sur leur destinée ? Non ! Les gens, souvent, pour Ségolène Royal, ça aurait été la même chose, pour prendre les 2 au deuxième tour, ils votent pour des gens qui leur sont sympathiques. La démocratie est devenue quelque chose qui concerne l'empathie, l'affectif, la pipelisation. Je pense que le tirage au sort permettrait de nous rendre cet immense service de mettre au pouvoir, temporairement, des gens dont la tête ne nous revient pas. N'importe qui, quelqu'un qui ne ferait pas d'effort, quelqu'un qui serait comme tout le monde, mettre comme tout le monde, quelqu'un comme tout le monde à la tête de l'État, ça permet de neutraliser les effets populistes, démagogiques, de la captation par le vote. Vous voyez, hein, j'avais gardé une arme lourde pour la fin. C'est-à-dire, et moi j'irai encore plus loin. Pourquoi on a gardé ça ? Pourquoi on se dit, ouais mais bon, Nicolas il est mieux que moi, Ségolène est mieux que moi, donc je vais voter pour elle. Parce qu'en fait en France, mesdames et messieurs, en France, on a gardé une mentalité monarchique. Avec un peu de formation, pourquoi on serait moins qualifié ? Avec un peu de formation, il faut de l'exigence pour faire de la politique. Vous voyez, par ce système de remise en question, il faut convoquer des moyens qu'on n'est peut-être pas prêt à donner, un investissement qu'on n'est peut-être pas prêt à donner. On préfère s'occuper de ses affaires, comme dit Tocqueville, c'est l'individualisme tel qu'il l'a diagnostiqué, plutôt que de faire de la politique. Voilà, donc j'espère avoir répondu, en tout cas en nuançant quelque chose, vous voyez, qui... Je suis d'accord avec vous sur le fait que le tirage au sort, comme ça, brutal, aurait un effet contre-performant. Les gens diraient, mais de toute façon, donc, au fond, il n'y a pas de... L'idée que, prenons le général de Gaulle par exemple, celui qui a institué le suffrage universel de la présidence en 1958. Chez de Gaulle, il y a l'idée que l'homme d'État va se ressourcer dans son dessein historique, sauver la France, l'appel du 18 juin, quelques années avant, auprès du peuple, contre la technicité parlementaire. Il y a l'idée d'un référendum permanent en quelque sorte. De Gaulle procédait par référendum aussi bien. Donc, moi, je suis très sensible à ça, à l'idée du dessein historique de l'homme d'État. On devient un homme d'État quand on a un dessein historique. Si on est un technicien gestionnaire, ça ne peut pas tellement marcher. Donc vous voyez, moi-même, ne croyez pas que je suis un tireur au sort à tout grain. Je pense qu'il faut avoir des idées pour l'histoire, pour la nation française. Je pense qu'on est dans un pays, par exemple, et dans un ensemble de pays, la France et l'Europe, dont la mission culturelle mondiale, vous voyez, je vais très loin, est très importante. Quelqu'un qui serait illettré ne pourrait pas comprendre ça. Avez-vous vu les photos des présidents de la République ? De Gaulle, devant une bibliothèque. Pompidou, devant une bibliothèque. Giscard d'Estaing, photo officielle dans toutes les mairies, devant un drapeau. Mitterrand, devant une bibliothèque avec un livre. Jacques Chirac, devant l'Élysée, avec l'Élysée derrière lui en profondeur. Le président Sarkozy ne fait pas exception, devant une bibliothèque. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, qui représente la France, je ne suis pas seulement un mandaté, vous voyez, quelqu'un qui est mandaté par le peuple, je ne suis pas un délégué. Je suis celui qui incarne le patrimoine culturel de la France. J'ai derrière moi peut-être 120 exemplaires de la princesse de Clèves, en cuir. Voilà ce que ça veut dire être président de la République en France devant une bibliothèque. C'est la photo officielle. C'est la photo officielle. Voilà. Vous voyez donc, du coup, attention, ça veut dire qu'il y a une gravité de la politique. On va représenter, incarner des valeurs pour l'ensemble de la nation, compte tenu du présent, du passé et du futur. Donc ça ne peut pas être, évidemment, lâché comme ça. Simplement, il me semble que le processus de désignation est un processus qui s'est professionnalisé, sédimenté, qui est capté par les partis. Est-ce que les partis sont représentatifs de nos jours? C'est discutable. Même les syndicats ne sont plus. Si on va... vous voyez, il y a des phénomènes de désobéissance civile à partir de là. Si un candidat désigné par les partis, qui est élu finalement, mais une faible, vous voyez, une majorité évidemment importante, mais une faible participation. C'est grave ça, c'est très grave, on ne se reconnaît pas dans les gens. Voilà. J'ai commencé à réfléchir à tout ça, moi qui vous parle, j'étais jeune, en 1981, quand Coluche a laissé entendre qu'il allait se présenter. 81, j'étais tout jeune, j'ai passé mon bac. Alors tous mes copains disaient, mais c'est super, quelle idée super. Voilà quelqu'un qui va tous les avoir. Et je me suis dit, mais c'est peut-être très grave ce qui est en train de se passer. Un humoriste qui n'a aucune compétence politique, sauf du bon sens. Vous savez, on disait de lui qu'il avait déjà, dans une sorte d'estimation de préélectorale, 15% de vote derrière lui. Mais il n'avait pas les fameuses 500 signatures d'éminentes personnalités élues qu'il faut avoir. Et il a eu des menaces de mort, etc. Et lui-même a décidé qu'il ne s'engagerait pas en politique. Mais il y a eu ce phénomène, disons, d'émanation apparemment spontanée d'un individu, ça peut être celui-là, ça peut être un autre, bien plus terrifiant, qui promet la lune aux gens. Ce dont je vous ai parlé, le processus de montée en généralité apparemment par la représentation, peut-être n'est pas si mauvais du fait qu'il permet une série de médiations intellectuelles où le candidat est sommé de devenir un élu en présentant son programme, ensuite en incarnant, enfin en rassemblant autour de lui. Voilà. Peut-être que ce n'est pas si mauvais. Mais simplement, peut-être qu'il faut un peu de pluralité, sachant qu'il y a un système qui obéit à une classe politique qui se reproduit. C'est assez facile de devenir un ministre en un sens. Ici, c'est assez facile, vous voulez la recette. Bon, vous réussissez votre bac brillamment, vous faites Sciences Po. Ensuite, vous faites l'ENA. Vous êtes dans un parti depuis toujours. Vous tirez au sort, hein, que certains l'ont fait. Hein. Certains ont lancé une pièce en l'air pour savoir s'ils étaient inscrits à droite ou à gauche. Hein. Vous voulez les noms? Ben c'est connu, vous n'avez qu'à chercher un peu. Et ils sont devenus ministres, voire premiers ministres pour certains. Et on a dit qu'ils étaient plutôt socialistes ou plutôt droite, mais en fait, ils ont suivi le cursus. Un cursus lié à des bonnes manières, à une intelligence vive, à des connaissances en droit, en histoire, un peu en philosophie. Mais ce n'est pas très compliqué. Simplement, est-ce que ces gens-là sont représentatifs à un moment donné? Quel effort on doit peut-être faire pour les obliger à être représentatifs? Peut-être simplement, on doit panacher de délibération et de participation le mandat représentatif. En demandant par exemple, ce que je disais tout à l'heure, à un élu, une reddition de compte, discuter avec lui de son programme à mi-parcours. Le conseil de citoyens tirés au sort pourra, je ne sais pas, peut-être déposer le président, si on considère qu'il n'a pas rempli son mandat à mi-parcours. Mais ça va être... faire de la politique, ça implique un certain risque. Hein. C'est pas tranquille, voyez. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette option, moi, en philosophie. C'est-à-dire que, vous savez ce qu'on dit, ce que disait un auteur classique, il disait, oh, une erreur de raisonnement dans un traité de métaphysique, bon, voilà, on va en parler des siècles. Une erreur de raisonnement dans un traité politique, c'est combien de milliers de morts? Là, les options qu'on va être obligé de prendre dans ce système représentatif, mise en place pour et par la notabilité après la Révolution française. Ces options, elles sont totalement discutées. Des partis alternatifs apparemment, comme celui par exemple du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, remettent ça en question. Le NPA, Olivier Besancenot, si j'ai bien compris, est pour le mandat impératif. un mandat de type syndical. Ça veut dire que le représentant, même si c'est le chef de l'exécutif, doit rendre des comptes, doit rester en prise avec les desiderata de la population. Bon, on peut faire un petit vote, là, démocratique. Qui c'est qui garde le mandat représentatif tel quel? Bon, on n'a pas le droit de ne pas se prononcer, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais moi je suis... Ok, j'ai vu. Je suis pour la citoyenneté à la Suisse. Je suis pour la citoyenneté à la Suisse. L'obligation civique est un devoir. On n'a pas le droit de ne pas voter. Parce que ça, il y en a assez, quoi. Alors, qui est-ce qui est pour le tirage au sort généralisé? Levez bien la main. L'avenir, on verra si vous avez raison. Qui est-ce qui est pour, disons, de la participation et de la délibération greffée sur la représentation, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens d'être plus représentatifs, améliorer la représentation des représentants, par exemple en leur demandant des comptes régulièrement. Dans une position intermédiaire? Très bien. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, vous voyez, mon idée, c'est que je fais ce genre de choses, je sors de l'amphithéâtre de l'université ou de Sciences Po pour vous dire que ce que vous connaissez sous le nom politique est fortement connoté péjorativement souvent. En réalité, j'espère qu'il y a parmi vous des vocations. La politique implique véritablement une vie assez exaltante quand même. C'est-à-dire l'existence politique, on n'a pas fait mieux quand même. Si, les émotions esthétiques, les émotions amoureuses. Mais les émotions politiques sont extraordinaires aussi. Et on oublie un peu ça dans notre système, en donnant finalement nos voix sans réfléchir à des gens dont la tête nous revient. On peut reprocher ce qu'on veut aux élus actuels, mais certains nous font réagir violemment dans notre sens politique. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Il n'y a pas de gestion en politique, il y a des décisions. Et je crois que ça vaut le coup de prendre quelques risques, vous voyez. Moi, je serais pour une phase, je vais vous donner le fond de ma pensée, une phase intermédiaire, où on essaie pour voir si ça marche, le tirage au sort. Pour les députés, par exemple. Les députés, concrètement, si vous voulez, ils sont investis par un parti. Enfin bon, c'est souvent des médecins, des profs. Pourquoi ce ne serait pas un type qui n'a pas le temps de faire de la politique, qui est débordé par son travail, un artisan? Pourquoi ce ne serait pas un carrossier? Il n'en fera jamais, parce qu'il n'a pas le temps. Il faut un temps fou pour faire de la politique. Mais on va dire, voilà, bon, écoutez, le tirage au sort, vous arrivez dans une carrosserie, écoutez, monsieur machin, le tirage au sort, c'est quand même merveilleux, a décidé que vous allez être député de cette circonscription pendant tant d'années. Mais comment ça? Et mon affaire? Bon, l'État s'en occupe. L'État s'en occupe. On va désigner un gérant à votre place. Et puis, et attention, un bon gérant, hein, faudra qu'il travaille. Hein. Ça veut dire, n'ayez crainte, vous vous rendez compte. L'extraordinaire capacité de mobilisation démocratique de ce... Est-ce qu'il serait pire que tel ou tel député politisé par un parti? Attention, peut-être qu'il faut une discipline intellectuelle que le parti ou que l'État pourrait lui donner en disant attention, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que ça signifie, etc. Voilà les enjeux, quoi. Voilà les conditions et voilà les enjeux. Réfléchir politiquement implique un travail. C'est presque un métier. Mais en fait, ça ne l'est pas quand même. C'est quand même pas un métier. Dans une démocratie, la compétence est celle des incompétents, comme on dit. C'est celle de tout le monde. Il n'y aura véritablement de démocratie que lorsqu'on aura testé cette solution. Peut-être que vous serez député avec ce système. Et peut-être que vous serez obligé de prendre des décisions pour les autres. Et vous verrez ce que ça fait. Ce que fait votre délégué. Votre délégué, elle doit discuter pour vous, à votre place. C'est pas facile. Ah ben oui. Voilà. Donc ça dynamise un peu sa relation avec l'existence. Souvent, elle rentre chez elle en disant... Ai-je pris la bonne décision? Ai-je représenté mes collègues comme j'aurais dû? Voilà. Et vous voyez, en fin de compte, je terminerai sur cette note un peu lourde. On n'a pas le choix de mener ou pas une existence politique. On n'a pas le choix de mener ou pas une existence politique. Nous menons une existence politique. Ou alors, il faut faire revenir les rois de droit divin. Si on ne veut pas faire de politique, il faut des monarques de droit divin. Ou, en gros, il faut Monaco, quoi. J'ai un étudiant à Sciences Po qui est monégasque et qui me dit « Nous, on a trouvé la meilleure forme de régime. » La politique, les gens n'en font pas. Il y a un roi, il s'en occupe bien. Monégasque. Donc, alors, si on ne veut pas faire de politique, soyons monégasques. De fait. Enfin, je ne sais pas si Monaco est comme ça, mais mon étudiant est comme ça. Donc, voilà. Cette option me semble une option qu'on peut avoir en tête en disant, si on ne veut pas faire de politique, peut-être la seule perspective, c'est une perspective à donner le pouvoir à quelqu'un de manière dynastique. Il y a une sorte de continuité. Voilà, il n'y a pas de discussion, quoi. On ne peut pas discuter. Bon, moi, je ne suis pas monarchiste, mais je pense que, si vous voulez, ce système avait une vertu, c'est la stabilisation dans une société non politique. En revanche, dans une société politique, moi, je suis très, très, très insatisfait. Notre société n'est pas assez politique. Elle n'est pas assez politique. Il va falloir délibérer, il va falloir organiser des conseils, agir collectivement, réfléchir à notre situation. Voilà. Donc, l'avenir vous est ouvert. Et je vous sens très motivé.